Partez à la découverte des recherches faites en français à l'Université de Regina en Saskatchewan avec votre hôte Ousmane Ilbo-Mahaman. Ce balado vous est offert par la Cité universitaire francophone en collaboration avec la coopérative des publications françaises-croises et la radio communautaire Prairie FM.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au troisième épisode sur les recherches en français faites à l'Université de Regina en Saskatchewan. Le thème de cet épisode, c'est la bande dessinée au Canada. Existe-t-il des BD autochtones? Je suis aujourd'hui avec Sylvain Rowe, PhD, professeur agrégé à la Cité universitaire francophone à l'Université de Regina. Nous parlerons de la bande dessinée ou communément appelée la BD. La BD qui est une forme artistique faite d'assemblages d'images fixes ou de dessins qui suivent une narration dialoguée. Bonjour Sylvain.
Bonjour, comment ça va?
Ça va très bien. Sylvain, depuis quand œuvrez-vous à l'Université de Regina?
Je suis arrivé en Saskatchewan en 1998. Je viens juste de terminer mon doctorat. Et j'étais étudiant à l'Université de Montréal. Mes études portaient surtout sur la stylistique. Mon directeur de thèse à l'époque, le docteur Bernard Duprier, il travaillait à faire un dictionnaire. Et il appelait ça la clé des procédés littéraires. J'ai travaillé sur ce projet. C'est un projet qui est très important pour moi parce que ça a comme donné une direction à ma carrière. Et puis, en quoi ça consiste, en fait, une clé des procédés littéraires? D'abord, qu'est-ce que c'est une clé? C'est un outil qui permet d'identifier différents objets. Alors, par exemple, les gens connaissent peut-être les clés dichotomiques pour identifier les plantes. Par exemple, on vous demande, est-ce que la plante a des feuilles dentelées ou est-ce que les feuilles sont lisses? Avec une série de questions comme ça, on parvient à identifier la plante à laquelle on fait. Alors, la clé des procédés littéraires, qu'est-ce que c'est, en fait? C'est lorsqu'on lit, par exemple, dans un texte, on voit qu'il y a comme une figure de style ou un procédé littéraire, puis on parvient pas à la nommer. On parvient pas à trouver le nom de ce que c'est. Alors, l'idée, c'était de créer une espèce de classement des figures de style et pour pouvoir les identifier. Donc, en gros, ça, c'est ce que j'ai fait avant d'arriver à l'Université Regina.
OK.
Et puis, j'ai donc atterri dans les prairies, littéralement, en 1998, après avoir été engagé à qui, à l'époque, était le département de France.
Oui, Sylvain, mais dites-moi, quel genre de recherche peut-on faire sur la bande dessinée?
Il y a différents types de recherches. Donc, comme vous savez, il y a différentes façons d'approcher un texte. Par exemple, on peut faire une approche sociologique. Donc, quelle est la place du texte dans la société? On peut utiliser une méthodologie qu'on appelle l'intertextualité. Donc, quelle est la place du texte parmi les autres textes? Et, par exemple, est-ce qu'il y a des influences? Est-ce qu'il y a eu des influences d'autres textes qu'on peut retrouver? Par exemple, si on pense pas à Sartre, est-ce qu'il y aurait une influence de Camus ou vice-versa?
OK.
Ensuite, il y a l'approche qui est très populaire en France, qui s'appelle la sémiologie, et qui est une science du sens. Alors, comment est-ce que le sens se crée dans le texte? Comment est-ce que d'autres sens s'ajoutent? Comment est-ce qu'il y a des couches de sens se crée dans le texte et qui donne une certaine profondeur ou une certaine beauté. Et puis moi, j'ai décidé d'appliquer les méthodes stylistiques à la bande dessinée. Évidemment, dans la bande dessinée, il y a d'autres dimensions. Il y a la dimension de l'image, du dessin, le style. Il y a différents codes, donc, qui se superposent. Par exemple, dans une bande dessinée, il y a le dessin, évidemment, qui représente des choses, mais il y a aussi le code de l'écriture. Et puis, il y a d'autres codes aussi qui ont été inventés, comme par exemple, lorsque quelqu'un va vite, il y a des petites lignes qu'on va ajouter. Donc, ça n'existe pas dans la réalité, mais c'est un code qu'on ajoute.
Alors, à présent, quelle situation peut-on faire de la bande dessinée dans le monde?
Dans le monde, la bande dessinée occupe une place de plus en plus importante dans la culture populaire. Et puis, il y a plusieurs raisons. Je pourrais vous faire tout un cours sur l'histoire de la bande dessinée. Après, je vais essayer de résumer les grandes tendances.
Okay.
On peut dire que dans le monde, il y a comme trois grandes cultures fondatrices. La bande dessinée de culture américaine, elle a commencé dans les journaux autour des années 1880. Il y a beaucoup de gens qui avaient la difficulté à lire dans ces années-là. Et une des premières choses qu'ils lisaient dans le journal, c'était la petite bande dessinée, parce que c'est plus facile à lire, puis c'est amusant. Alors là, les journaux ont commencé à se faire une compétition, et ils ont de plus en plus mis de bandes dessinées dans leurs journaux. Et c'est ce qu'on appelait à l'époque des strips. Donc, c'est juste des petites bandes de 2, 3, 4 cases.
Des strips?
Oui.
OK.
Et puis, il y avait une page de strips. Donc, il pouvait y avoir, par exemple, une dizaine de strips différents. Puis même, dans certains journaux, il y en avait une vingtaine. Fin des années 20, début des années 30, il y a quelqu'un qui a l'idée de regrouper quelques-uns de ces strips pour les recueillir dans une espèce d'album. Comme la plupart des strips étaient des histoires drôles, le recueil, on appelait ça un comic. C'est ce qui a donné son nom en anglais. Et puis ensuite, au début, c'était seulement un recueil de strips. Mais par la suite, on a commencé à créer du contenu spécifique pour ce nouveau format qu'on avait créé, le format comic book. Et c'est dans ce format-là qu'on a créé les super-héros. Et puis, aux États-Unis, les super-héros sont devenus un phénomène tellement important que, finalement, il n'y avait pas d'autre genre que les super-héros. Pendant ce temps-là, en Europe, la bande dessinée, on pourrait penser à Tintin, qui était parmi les premières bandes dessinées. C'est pas la première. Comment est-ce que ça a commencé? Tintin, ça a commencé dans un journal, un peu comme aux États-Unis, mais sauf que le journal avait un supplément. Le journal s'appelait Le 20e siècle. C'est un journal belge. Et une fois par semaine, il y avait un supplément qui était consacré aux enfants. Puis dans ce supplément, on mettait une page illustrée pour les amuser. Et puis c'était donc une page de Tintin. La grande différence, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé par la suite, c'est que on a recueilli donc les planches de Tintin publiées dans le journal. Et au lieu d'en faire un comic book comme aux États-Unis avec une couverture molle, on les a recueillis puis on en a fait un livre avec une couverture cartonnée.
Ouais.
Parce que on voulait que ça devienne un objet de collection, mm-hmm. que les lecteurs pouvaient acheter et conserver dans leur bibliothèque. Donc on voulait un beau livre. Donc on achetait les bandes dessinées pour les conserver. Alors qu'aux États-Unis c'était plutôt de la consommation. On les achète puis ensuite on s'en débarrasse. Vous voyez ici que ça donne un peu une idée aussi. Comment l'industrie influence la bande dessinée, comment les gens lisent la bande dessinée et puis comment on la considère. Donc en Europe, c'est un des premiers endroits où la bande dessinée devenait un objet d'étude parce que on avait des collections puis on les considérait comme quelque chose de plus sérieux. Au Japon, il y a eu malheureusement la Deuxième Guerre mondiale qui a été très meurtrière. Pour les Japonais, ça a vraiment été une expérience épouvantable quand on pense aussi aux bombes atomiques. Au Japon, ils avaient énormément besoin de divertissement. Au début, bon, comme le papier était assez rare, les bandes dessinées qu'on publiait, elles étaient souvent empruntées dans des genres de bibliothèques. Mais il fallait payer pour les emprunter. Ce qui comptait pour les Japonais, c'était donc d'en lire beaucoup. Et puis au Japon, comment ça fonctionne, leur industrie, c'est que ils vendent surtout dans les stations de métro et de train, des gros recueils de bandes dessinées.
Mm-hmm.
Et dans ces recueils, il peut y avoir peut-être, disons, une vingtaine de pages pour une quarantaine de séries différentes. Et quand les lecteurs ont fini de lire, souvent on leur demande de remplir comme un petit sondage. Ensuite, ces séries-là vont être republiées plus tard en recueil. Alors, il y a déjà une espèce de sélection naturelle qui se fait ici parce que il y a donc une quarantaine de titres dans un recueil qui est publié dans le métro sur un papier très, très mauvais, en fait. Donc, disons qu'on en conserve 5. Ça, ce sont les séries les plus populaires. On voit qu'il y a déjà un processus de sélection, qui est très centré sur les goûts du public. Et puis, parmi les titres qui ont été publiés en album, on va en retenir quelques-uns pour en faire des dessins animés. C'est souvent très bon, les histoires sont très bonnes et ça plaît à un public mondial.
Alors, Sylvain, est-ce que tu peux me dire maintenant quelle est la situation de la bande dessinée au Canada?
Le Canada, on est un peu à l'intersection de toute cette influence-là.
Uh-huh.
Alors, on est, si on peut dire, on a une porte ouverte au sud, sur la culture américaine. On a une porte ouverte par le Québec, sur la culture franco-belge.
Uh-huh.
Et on a une porte ouverte sur le Japon, par Vancouver et la côte ouest. Alors, comment est-ce que ces cultures-là se sont manifestées ou ont fait leur chemin au Canada? Premièrement, On sait que les États-Unis, c'est un voisin gigantesque. C'est un éléphant comparé au Canada qui serait une petite souris. Alors, au point de vue économique et au point de vue culturel, le Canada fait donc figure de partenaire minoritaire. Alors, jusque dans les années 40, lorsqu'il y avait des bandes dessinées publiées aux États-Unis, elles étaient exportées au Canada et il y a très peu de créateurs canadiens qui pouvaient rivaliser avec ce qui se faisait aux États-Unis parce que pour un public moins important, on pouvait obtenir le même rapport quantité-prix. Par contre, il y a certains créateurs canadiens qui sont allés aux États-Unis et qui ont travaillé. Entre autres, un que tout le monde connaît, c'est Joe Shuster, qui est un Canadien et qui a dessiné Superman pour la première fois. Ça a été créé par Jerry Siegel, scénariste, et celui qui a dessiné donc Superman la première fois et qui lui a donné son empreinte visuelle, c'est un Canadien. Donc, les Canadiens, finalement, ont pas été si, sont pas restés à rien faire, mais c'est-à-dire qu'au point de vue de l'industrie, au Canada, on pouvait rien faire, il fallait passer par les États-Unis. Ensuite, dans les années 40, c'est la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis entrent en guerre, mais le Canada, à cause de la situation de la guerre, a décidé de fermer sa frontière culturellement à certains produits américains comme les bandes dessinées. Alors, ça a créé un vide au Canada, et là, ça a permis à beaucoup de créateurs de pouvoir dessiner et publier leurs œuvres. Alors, il y a eu comme un âge d'or au Canada pendant les années 40 parce qu'on avait fermé la frontière, juste pour protéger les marchés intérieurs du Canada. Quand la guerre est terminée, bon, évidemment, tout ça a disparu parce que les produits américains ont recommencé à envahir le marché canadien. Pendant ce temps-là, au Québec, on était inondé après la guerre, donc de bandes de Tintin, puis à partir des années 60, par les albums d'Astérix et toutes les autres bandes dessinées qui étaient très populaires. Ça a inspiré beaucoup de jeunes auteurs à faire de même, à s'intéresser à la bande dessinée. Et puis, oui, bon, il y a donc des créateurs au Québec qui ont émergé. Mais ils avaient beaucoup de difficultés à créer parce qu'ils n'avaient pas le marché. C'est-à-dire, bon, s'ils publiaient une bande dessinée, ils ne parvenaient pas à en vendre assez pour pouvoir en vivre. Alors, souvent, ce qui arrivait aux créateurs du Québec, c'est qu'ils devaient faire de la bande dessinée à temps partiel, si on peut dire. Ou même certains sont allés travailler aux États-Unis où ils travaillaient pour les chaînes américaines, comme par exemple faire de l'ancrage pour des grandes compagnies américaines ou toutes sortes d'autres petits travaux comme ça. Dans les années 70 et 80, de plus en plus la culture japonaise s'est infiltrée au Canada. Et comment est-ce que ça a fonctionné? À Vancouver, il y avait plusieurs personnes du Japon qui s'étaient installées. Et ils avaient des contacts au Japon. Alors, quand il y avait des nouvelles séries animées qui sortaient au Japon, ils recevaient des cassettes vidéo. Alors, ça, c'est les tout débuts des vidéos. Je sais pas si les gens se souviennent du format VHS. Et les gens copient les VHS sur d'autres VHS. Et les bandes dessinées, les dessins animés font leur chemin de l'ouest du Canada vers l'est. Et ça passe surtout par les universités. Sur les campus universitaires, les gens s'intéressent aux dessins animés japonais et ils ont des contacts, ils font des copies, tout ça. Et c'est comme ça que une des sources de l'influence de la culture japonaise au Canada.
En fait, tu as cité trois courants qui sont venus au Canada, notamment le courant américain, le courant franco-belge et le courant japonais. Y a-t-il des bandes dessinées autochtones au Canada?
Je vais parler non pas en tant que spécialiste autochtone, mais je vais parler en tant que lecteur de bande dessinée. Et c'est donc à ce titre que je vais parler de la bande dessinée autochtone. Donc, je suis pas un spécialiste des questions autochtones. Évidemment, il faut reconnaître qu'il y a eu des décisions dramatiques et désastreuses même on pourrait même dire génocidaire de la part du gouvernement canadien, quand on pense, par exemple, aux pensionnats et aux effets négatifs que ça a eu sur la culture autochtone. Donc, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'au Canada, la tendance, c'était à l'effacement de la culture autochtone. Et il a fallu donc les travaux de la commission sur les pensions autochtones qui ont résulté heureusement en un changement d'attitude de la part des gouvernements et aussi qui ont eu des conséquences heureuses sur l'attitude de la population. Alors, il y a donc des effets positifs. S'il n'y a pas eu de bande dessinée autochtone avant, disons, les années 2010, c'est pas de la faute aux autochtones, c'est de la faute surtout à l'attitude des Canadiens en général face à la culture autochtone.
Et si je comprends, les premières bandes dessinées autochtones ont apparu dans les années 2010.
C'est donc très tard. Il y a eu quelques autochtones qui ont fait des bandes dessinées, mais c'est vraiment des cas très ponctuels. La véritable émergence, ça se passe donc à la fin des années 2000, début des années 2010. Et on a donc les premières vraies bandes dessinées autochtones. En fait, il y a plusieurs types de projets. Disons qu'on pourrait les qualifier de pédagogiques. Il y a des bandes dessinées qui sont créées à des fins pédagogiques, c'est-à-dire pour donner du matériel à lire, en particulier aux enfants autochtones, mais aussi aux enfants non autochtones qui peuvent ainsi s'initier un peu à la culture des autochtones. Comme par exemple, à Winnipeg, il y a une compagnie qui s'appelle Highwater Press et qui publie des séries Seven Generations. Ils ont aussi publié une autre série qui concerne les grands personnages de la culture autochtone, comme Paula Johnson, qui était une poétesse mohawk, Gabriel Dumont, un métis, et puis d'autres nations qui ont eu des héros. Et donc, on a fait une bande dessinée pour chacun de ces héros. Un autre type de bande dessinée, c'est des bandes dessinées pour répondre à certains besoins, comme par exemple pour aider à informer les populations autochtones de leurs droits légaux. Il y a une compagnie en Colombie-Britannique qui s'appelle Indigenous Stories et qui crée des bandes dessinées adaptées aux besoins de certains groupes. Il y en a qui veulent donner de l'éducation aux enfants sur les dangers de la drogue ou sur l'importance de se nourrir de manière saine ou les maladies transmises sexuellement, tout ça. Donc, ils ont des bandes dessinées pour chacun de ces types de problèmes. Donc, c'est une autre façon d'éduquer la population. Mais ça donne quand même des histoires très intéressantes parce qu'il faut que ça soit adapté à la culture autochtone. Et puis, il y a des créations vraiment très uniques. Comme il y a un créateur sur la côte ouest qui s'appelle Michael Yagulana, qui crée des bandes dessinées dans le style des nations de la côte ouest. On peut penser par exemple au Haida. Mm-hmm. Et qui s'inspire aussi du manga, donc de la culture japonaise. Et il le dit clairement dans son introduction. Et on peut le comprendre un peu parce que aux yeux des autochtones, il faut comprendre que les cultures américaines, anglophones, et aussi franco-belges ou francophones, représentent des peuples européens coloniaux. Mm. Alors, en s'associant au manga japonais, le message de Caligulana, c'est un peu comme pour dire, voici, je crée dans une structure qui n'a pas colonisé le Canada. C'est donc un message assez puissant en ce sens.
Alors, Sylvain, pour finir cet entretien, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que le groupe de recherche sur Au-delà des deux solitudes?
Oui, c'est un groupe qui a été fondé par mon collègue Chris Chikuma-Rein de l'Université de l'Alberta, qui a regroupé des collègues de partout au Canada. Entre autres, il y a Sylvain Lemay de l'Université du Québec en Outaouais, et puis Jean-Sébastien du Collège de Maisonneuve. Et on travaille ensemble à la problématique des échanges interculturels entre les cultures canadiennes par le moyen de la bande dessinée. Comme par exemple, qu'est-ce qu'on dit des Canadiens anglais dans la bande dessinée québécoise? Est-ce qu'il y a des traces de la culture canadienne au Québec dans la bande dessinée? Est-ce qu'on pourrait dire la même chose des bandes dessinées canadiennes? Est-ce qu'on voit des traces de la culture francophone? Et puis, qu'est-ce qu'il en est de la bande dessinée autochtone? Donc, on parle souvent des deux solitudes. C'est le titre d'un roman qui a été écrit dans les années 30, je me souviens, et qui déplorait le manque de communication entre les deux cultures. Nous, on se dit, on pense qu'il existe des échanges entre les cultures anglophones et francophones, entre autres dans la bande dessinée. Mais surtout aussi, il faut aller au-delà de ça, c'est-à-dire, c'est plus deux solitudes, mais c'est plutôt au moins trois, sinon peut-être quatre ou plusieurs autres cultures au Canada, quels sont les échanges qu'ils établissent entre eux par le biais de la bande dessinée. Donc, qu'est-ce que la bande dessinée peut nous dire à propos des échanges interculturels entre ces peuples? Alors, c'est ça, c'est là-dessus qu'on travaille. Et on a commencé il n'y a pas très longtemps. Et puis, on a déjà eu quelques conférences. On se prépare à en faire davantage.
Alors, merci beaucoup, Sylvain Rowe. Et je rappelle à nos auditrices et à nos auditeurs que vous êtes professeur agrégé à la Cité universitaire francophone de l'Université de Regina. Merci et à très bientôt au prochain épisode.
Merci, c'était un plaisir.
Vous pourrez retrouver tous les épisodes de cette série sur le site lacité.uregina.ca.